Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 6 avril 2023, en direct des studios de choc.ca, il est 18h32, pour ceux et celles qui nous écoutent en direct sur Internet. Mathieu est au micro en compagnie de Marie-Ève.
Et bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, nous sommes en duo ce soir, Simon étant dans un autre continent, il s'est sauvé de cette belle, ce beau début de printemps. Donc, grand bien lui fasse, il sera de retour dans deux émissions. Donc aujourd'hui, 6 avril, oui, les apatrides, toujours les enjeux d'immigration, racisme, frontières, droits humains, sécurité nationale et autres joyeuses patentes. Donc au programme aujourd'hui, un gros bloc, une entrevue avec Youssef Brakni du collectif Justice et Vérité pour Adama. Une entrevue enregistrée il y a quelques mois à Paris par un de nos camarades. Donc on va parler entre autres de brutalité policière, Marie-Ève.
Oui, entre autres, et de mobilisation populaire aussi, de plein de choses vraiment intéressantes. En tout cas, dans le contexte français actuel, là, ça a toute sa pertinence.
Exactement. Donc, dans à peu près une dizaine de minutes. Sinon, on va parler aussi de la Grèce, de l'Islande. On va parler de Madagascar. C'est assez rare. On va parler aussi, dans quelques instants, des enjeux autochtones. Et en musique, on aura Alex Fournier et Sextet. On aura aussi Sonny War et Keith Kuna au courant de l'émission. Donc, bienvenue aux Apatrides Anonymes. On commence dans quelques secondes. Donc, en jeu autochtone, je voulais vous parler des deux budgets provincial, québécois et fédéral et ce qu'il y a pour les autochtones parce que c'est quand même de plus en plus important. Il y a de plus en plus d'annonces, de financements. Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec prévoit 121 millions de dollars pour les Premières Nations et les Inuits. Ce sont 72 millions de dollars sur 6 ans qui serviront à la bonification des services aux autochtones de tous les milieux. De plus, 50 millions sur 3 ans permettront notamment l'amélioration du logement au Nunavik et à Montréal. Le budget de dépenses du secrétariat des relations avec les Premières Nations et les Inuits, piloté par Yann Lafrenière, l'infâme, augmentera de 22 millions de dollars et passera alors à 405 millions de dollars par année, hausse attribuable aux indexations relatives aux grandes ententes déjà existantes avec les Cris, les Naskapi et les Inuits. Au niveau, on parlait de Lafrenière, afin de soutenir les corps de police des Premières Nations et des Inuits, une somme de 17 millions de dollars sur 6 ans est prévue, ce qui est assez peu, on s'entend. La communauté... Je vais sauter une page.
Mathieu, prends ton temps.
Oui. Au Nunavik, des fonds permettront la création de 450 logements, la reconstruction de logements sociaux sinistrés, l'appui au marché de l'habitation privée et la construction d'un entrepôt pour les matériaux. Ce sont 13 millions de dollars sur 5 ans qui aideront à mettre en place un guichet unique d'accès aux services du gouvernement au Nunavik. Et une autre somme de 8 millions de dollars permettra un meilleur accès à la justice pour les Inuits. En dehors du Nunavik, la communauté Anishinaabe de Kitsissakik, en Abitibi-Témiscamingue, recevra un soutien financier de 300 000 $ au cours de la prochaine année pour la rénovation de ses habitations. Pour soutenir les services d'hébergement destinés aux itinérants autochtones de Montréal, le gouvernement offrira 7 millions de $ à l'organisme Projet Autochtone du Québec pour différents services, dont l'hébergement. Le budget prévoit 10 millions de $ pour rénover et agrandir le centre d'amitié autochtone de Val-d'Or aussi. En termes de biodiversité, le soutien de projets visant la transmission, la collecte ou l'encadrement du partage des savoirs autochtones est envisagé. J'ai bien envisagé. De plus, 5 millions de $ seront accordés à la restauration du territoire nordique, entre autres des vieux camps de chasse qui sont toujours sur le territoire. Et sinon, Québec souhaite assurer le développement harmonieux et responsable des minéraux critiques grâce à un financement de 10 millions de $ sur 2 ans. Dans le cadre de cette mesure, le gouvernement prévoit encourager la participation des communautés autochtones.
Prévoit encourager, oui, c'est ça.
Exactement. C'est ce qui est écrit texto dans le budget. Un projet pilote concernant le logement du personnel de la santé en région éloignée recevra 5 millions de $ pour différents endroits au Québec et 27 millions de $ pour un meilleur accès à Internet, entre autres au nord du 57e parallèle. L'Office municipal d'habitation Kativik salue les sommes allouées au développement du logement au Nunavik, mais estime que davantage d'efforts devront être consentis pour régler cet enjeu crucial pour la région. Québec octroie notamment 15 millions de $ pour permettre le déploiement du programme d'accession à la propriété de l'OMH de Kativik. Faut savoir... Attendez. Oui, c'est ça. Il faut savoir, cette initiative vise à augmenter le nombre de propriétés privées dans la région, alors que près de 98 % des résidents vivent dans des logements publics, sociaux ou communautaires. Au Nunavik, c'est quand même assez important. Ce budget supplémentaire permettrait de subventionner une trentaine de projets de construction ou de rénovation de maisons dans la région. La croissance démographique dans le Nunavik va au-delà de la capacité des autorités à construire de nouveaux logements. Environ 800 unités d'habitation doivent toujours être construites pour permettre de répondre à la demande. Le manque de logements dans la région fait en sorte que 47 % des logements sont surpeuplés dans le Nunavik. Donc, c'est bon de rappeler ces chiffres-là. Au fédéral, Marie-Ève, le fédéral prévoit de nouvelles mesures pour répondre aux recommandations de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues assassinées. C'est pas la première fois. En plus des 2,2 milliards de dollars sur 5 ans annoncés en 2021,
en plus des 2,2,
Il y a annoncé en 2021, il y a 100 millions dans ce budget-ci. Pardon, Marie. Okay. 2,2 millions de dollars sur 5 ans seront consacrés à la création d'un mécanisme de surveillance des progrès du gouvernement par rapport à son plan d'action présenté en 2021 pour lequel il y a eu 2,2 milliards de dollars. De plus, Ottawa se réserve 2,5 millions sur 5 ans pour la mise en œuvre du plan d'action. Le Cercle national des familles et des survivantes recevra 3 millions de dollars sur 3 ans afin de maintenir l'implication des familles et des victimes dans la mise en œuvre du plan d'action, toujours en lien avec la commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues.
Mais il me semble que ça dit rien de concret, là.
Non, c'est des mécanismes, c'est des applications de plan d'action. C'est très fédéral, hein, Marie-Ève?
Ouais.
En d'autres, 96 millions sur 5 ans permettront notamment un soutien accru aux familles des femmes disparues et assassinées afin qu'elles reçoivent une meilleure information pour favoriser la guérison. 100 millions de dollars, quand même. Les travaux de la représentante spéciale du ministre des Relations Couronne autochtone sur le suivi de l'enquête, elle s'appelle Jennifer Moore Rattray, elle va avoir 1,6 million de dollars pour 2 ans. Ce poste, donc, de représentante spéciale du ministre, créé en 2022, vise à conseiller le ministre quant à l'établissement d'un ombudsman voué aux questions des droits des Autochtones. Donc, des travaux pour voir si c'est une bonne idée, comment. C'est fédéral, hein? En ce qui a trait au logement, le budget ne fait que rappeler le montant annoncé l'an dernier de 4 milliards sur 7 ans. Selon l'Assemblée des Premières Nations, ce serait plutôt 44 milliards sur 10 ans qui seraient nécessaires pour mettre fin à la crise du logement dans les communautés autochtones et inuites du Canada.
Juste sur le logement, oui.
Ouais, exactement. En santé, 2 milliards de dollars sur 10 ans seront investis dans l'établissement d'un fonds d'équité afin d'améliorer l'accès des Autochtones aux soins. De ça, il y a 810 millions sur 5 ans pour soutenir les déplacements des fins médicales, donc entre autres en avion.
Ouais.
Ils permettront également de maintenir des services gratuits de santé mentale, de soins dentaires et de la vue, ainsi que l'accès à certains médicaments. Une mesure visant l'encouragement de la pratique des médecins infirmières dans les communautés rurales et éloignées permettra aux futurs professionnels de ce domaine d'obtenir un remboursement de leurs prêts pour aller travailler dans le Nord. Sinon, pour tenter de réduire les taux de tuberculose dans les communautés inuites, on investit 5 millions de dollars par année au cours des 3 prochaines années. Et en économie, un montant de 5 millions de dollars sera investi pour l'élaboration d'un cadre sur la réconciliation économique dans le but de valoriser les partenariats avec les communautés et les entreprises autochtones.
Bla, bla, bla.
Et Marie-Ève, 9 millions de dollars seront versés à Ressources naturelles Canada pour élaborer un cadre qui favoriserait l'engagement des Autochtones dans des projets d'exploitation. Ça rejoint l'argent du provincial sur les minéraux critiques. Il me reste combien de temps, Marie-Ève?
Il te reste au moins 2 minutes.
Au moins 2 minutes, écoute... Tromperie. Je continue ma suite. Vous allez reconnaître un personnage. 2 autres universités annulent les doctorats remis à Mary Ellen Turpel Lafont. Ces révocations des universités McGill et Carleton s'ajoutent à une série d'annulations déjà entamées par d'autres institutions universitaires. On rappelle, l'automne dernier, CBC avait publié une enquête mettant en doute la revendication d'ascendance autochtone de Mme Turpel-Lafont et aussi la véracité de ses fonctions dans les universités.
Ouais.
À la suite de ce reportage, le collectif des femmes autochtones et d'autres groupes ont demandé à toutes les universités qui lui avaient remis un doctorat de lui révoquer. Mme Turpel-Lafont a reçu des diplômes honorifiques de 11 universités canadiennes. Toutes ont déclaré qu'elles prenaient en compte les appels du collectif à révoquer ces distinctions. Au début du mois, l'Université d'Origina a été la première à annoncer qu'elle avait annulé le doctorat honorifique en droit qu'elle avait décerné à Turpel-Lafont en 2003. C'était la première fois qu'une institution universitaire annulait un diplôme. Ça me surprend avec toutes les,
ben, c'est
les,
ça.
Les bizarres et les crosseurs qu'il y a eu. Et le collectif de femmes autochtones a aussi demandé à la gouverneure générale du Canada de révoquer l'Ordre du Canada qui a été accordé à Mme Turpel-Lafont en décembre 2021, juste avant que tout ça sorte. Donc, assez particulier. Je vais m'arrêter là-dessus, Marie-Ève.
Déjà?
Ben, quoi?
Je pensais que tu en avais un autre, là.
J'en ai toujours d'autres, mais... Ah, des tromperies, non, j'en avais pas d'autres, par exemple. J'avais d'autres nouvelles, mais j'y garderai pour une prochaine fois. De toute façon, on a une grosse émission, hein? On a beaucoup de contenu.
Quand même, oui.
Fait que on va y aller avec un petit marqueur.
Petite note de musique,
ouais. Oui, puis ensuite, on commence avec l'entrevue avec Youssef Brackney.
Et oui, comme Mathieu vous l'a annoncé en intro de l'émission, on va vous présenter aujourd'hui une entrevue réalisée par Stéphane Christophe, qui est musicien et militant, et un militant qui anime l'émission hebdomadaire Free City Radio sur les ondes de CKUT. Entre autres, je vous donnerai là tous les détails plus tard à la fin de l'entrevue. En septembre dernier, Stéphane s'est entretenu à Paris avec Youssef Brakni, qui est membre du comité Vérité et Justice pour Adama, qui a été créé en 2016 par Assa Traoré, la sœur d'Adama. Adama qui est mort en détention à l'âge de 24 ans après son interpellation alors qu'il tentait de fuir un contrôle policier. Et donc, ça fait depuis 2016 que la famille et le comité se battent pour faire reconnaître la responsabilité des policiers dans la mort d'Adama et plus généralement contre les violences policières. Au fil des ans, toute l'affaire et le comité ont fait l'objet puis continuent de faire l'objet d'une importante couverture médiatique qui a dépassé les frontières de la France, tellement que sur la scène internationale, Assa Traoré est devenu, si on pourrait dire, le visage de la lutte pour la justice raciale en France. Dans la foulée du meurtre de George Floyd, elle a même fait la une du numéro de fin d'année 2020 du magazine Time aux États-Unis, qui l'a nommé l'une des « Guardians of the Year », donc les personnalités là, marquantes de l'année sur le plan du changement social, par exemple.
La défense des droits, oui.
Ouais. Mais au-delà des projecteurs, le comité est aussi très actif dans les quartiers populaires à Paris. Dès les lendemains de la mort d'Adama, il y a eu plusieurs manifestations, quelques émeutes aussi, là, mais plusieurs manifestations qui ont été organisées. Puis chaque année, ils se tiennent des marches blanches qu'on appelle pour commémorer la mort d'Adama, mais aussi plus généralement pour dénoncer les violences policières et le profilage racial. Alors, dans le premier segment qu'on va entendre dans quelques secondes, Youssef explique, plus particulièrement le cas d'Adama Traoré, mais il parle aussi de son rôle à lui dans le comité, des raisons qui le poussent à militer et du contexte plus large de violences policières et de racisme carcéral en France.
Oui, alors moi c'est Youssef Brakni, je suis militant antiraciste et contre l'impérialisme de manière générale dans le monde. Et comme je vis en France et que la France est un pays impérialiste, je me bats là où je vis pour faire en sorte que mon pays, la France, ne soit pas impérialiste, mais en tout cas qu'il le soit moins. Et je fais de mon mieux pour faire en sorte que le pays où moi je vis cesse d'avoir un comportement prédateur avec les autres pays dans le monde, notamment le continent africain, qui est le continent de mes origines, parce que je suis d'origine nord-africaine. Et je pense que tout le monde devrait faire ça dans le monde occidental, déjà là où chacun vit, faire en sorte que son pays ne soit pas un problème pour les autres pays dans le monde. Et puis par ailleurs, je milite dans une organisation qui s'appelle le comité Vérité et Justice pour Adama, qui est un comité politique organisé autour de la famille d'Adama Traoré, surtout autour de la sœur Assa Traoré. Et moi, je suis venu aider cette famille pour tenter d'apporter mon savoir-faire, mes connaissances et mobiliser l'opinion publique, parce que c'est ça qui compte, c'est l'opinion publique française et internationale, autour de la question des violences policières en France, parce que je pense que de l'étranger, on ne s'imagine pas l'ampleur des violences policières qu'il peut y avoir en France. C'est-à-dire à quel point, proportionnellement au nombre d'habitants, en réalité, elles sont très importantes. Il y a 67 millions, 66 millions d'habitants en France, et les violences policières concernent dans 90% des cas des personnes noires ou arabes, donc originaires principalement d'Afrique et notamment de l'ancien empire colonial français, et qu'on ne s'imagine pas à quel point ça peut être aussi massif pour une minorité aussi peu importante en termes numériques. Et ça, quand on la rapporte proportionnellement, par exemple, aux États-Unis ou au Canada ou au Brésil, etc., ça reste moins quand même, parce que c'est pas la même structure et c'est pas la même histoire. Mais quand même, elle reste. En fait, en réalité, c'est très important et ça peut se rapprocher de ce qui peut se passer dans des pays comme le Brésil ou les États-Unis, qui sont malheureusement des modèles de violence d'État. Par exemple, sur la population carcérale, en France, c'est hallucinant. Pareil, encore une fois, quand on regarde proportionnellement le nombre d'étrangers ou d'origine nord-africaine et d'Afrique de l'Ouest en prison, c'est juste alarmant, quoi. C'est énorme. C'est aussi une incarcération de masse, même si, encore une fois, c'est différent de ce que l'on peut voir aux États-Unis. Donc voilà à peu près pour présenter brièvement l'affaire. Pour ce qui est de l'affaire en elle-même du comité Adama, oui. Donc Adama Traoré a été tué le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, par trois gendarmes qui lui ont fait un plaquage ventral, un peu comme ce qu'a subi George Floyd. La même chose en fait, c'est-à-dire une technique d'immobilisation de plusieurs secondes au sol, face contre terre, avec trois gendarmes sur lui. Un qui l'étranglait, un qui l'appuyait sur le dos et un autre qui lui retenait les jambes. Et pendant plusieurs secondes, ce qui a entraîné une asphyxie comme George Floyd, quoi, et qui là, l'air n'arrivait plus, et du coup il est mort. Donc depuis 6 ans maintenant, ça fait 6 ans, c'est une bataille d'experts, d'expertise, où en fait il y a des experts de la justice qui disent non, c'est parce qu'il a couru avant, non, c'est parce qu'il faisait trop chaud, parce qu'il faisait 35 degrés ce jour-là. Incroyable. Comme si quelqu'un pouvait mourir d'asphyxie mécanique à cause de la chaleur. Et donc on a même l'expert, d'ailleurs l'expert de George Floyd, l'expert, le médecin qui a ausculté George Floyd, a ausculté Adama aussi, enfin a eu accès au dossier et a conclu que c'était une asphyxie due à l'intervention des gendarmes, des experts brésiliens, italiens, donc des experts du monde entier que l'avocat de la famille a cherché, a ramené à un piège de dossier comme ça. Ils ont tous dit c'est ridicule, il n'y a que l'asphyxie des gendarmes qui peut entraîner la mort, il n'y a rien d'autre, ni de maladie, ni de problème cardiaque, ni de machin. Donc on est dans cette bataille-là depuis 6 ans. Et donc c'est toujours en cours, l'enquête est en cours. 6 ans. On est dans un pays riche, on est dans un pays puissant, dans un pays avec des moyens, et on n'est pas capable de dire de quoi est mort un citoyen français. Impossible de le dire. C'est-à-dire que t'as la justice n'est pas capable de dire, voilà, on va mettre en examen les gendarmes, il y aura un procès, et ils doivent s'expliquer dans un procès, pourquoi un citoyen français qui était sous leur charge, quel que soit son délit, pourquoi il est mort. C'est pas possible en France, c'est pas possible dans la 5e puissance mondiale, c'est impossible. Donc voilà, au niveau judiciaire, rapidement, hein, parce qu'il y a plein de bouleversements, mais ça sert à rien de rentrer dans le détail, en gros c'est ça. On est face à un délit.
Alors, c'est du live. Hein. Vous avez entendu que l'entrevue a été enregistrée à l'extérieur, donc vous pouvez entendre les bruits de scooters parisiens et on s'excuse aussi pour les petits pics de vent qui parfois viennent un peu saturer le son. Si vous suivez là, minimalement l'actualité française, vous avez sûrement vu que les mobilisations contre la réforme des retraites et contre les bassines, c'est-à-dire ces espèces de structures là, de stockage de l'eau dans les régions agricoles, eh bien, ces mobilisations font face à une répression ultra-violente. Les flics sont complètement hors de contrôle, des milliers d'arrestations, des centaines de blessés, dont des personnes éborgnées, amputées d'un membre et au moins deux personnes qui sont entre la vie et la mort. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je le cite, « Il se peut que, individuellement, les policiers et les gendarmes, souvent sous le coup de la fatigue, commettent des actes qui ne sont pas conformes à ce qu'on leur a appris. » Je ferme la citation. Sauf que, il suffit pas de blâmer les individus. La brutalisation des rapports sociaux montre l'ampleur de la stratégie autoritaire de l'État français. Et comme on va le voir dans le segment qui suit, cette stratégie-là, elle date pas d'hier et va au-delà des manifestations.
En fait, en France, quand on décide de se lancer dans une bataille contre l'État, on le paye cher. On le paye très cher. On est face à une machine très puissante qui peut te détruire. Qui peut détruire la famille, et les soutiens, les militants. La répression, elle est brutale. Elle est sans pitié. Et on peut perdre son travail, on peut être pourchassé dans ses lieux de sociabilité, on peut avoir son compte en banque qui est fermé du jour au lendemain, son compte en banque privé, personnel. On peut vraiment subir une répression très forte, surtout depuis qu'il y a Emmanuel Macron aujourd'hui qui est président, et surtout avec son ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui a décidé d'avoir une politique très à droite pour renforcer l'extrême droite française. Donc nous, on est pris un peu comme en étau, parce qu'en fait, on va être montré en exemple de répression à l'extrême droite, à la droite française, pour dire, vous voyez, nous, on est ferme. On réprime, vous voyez, on réprime, on regarde dans les quartiers, on est sans pitié, on envoie la police, ils pourchassent les jeunes, il est mis en prison, etc. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est servi sur un plateau pour l'extrême droite, parce que l'extrême droite est très puissante en France, elle est très puissante culturellement. C'est très important ça, c'est pas pareil, politiquement et culturellement. Culturellement. C'est-à-dire qu'en fait, elle a gagné la bataille des idées.
Oui, parler de ça, c'est
important. Parce qu'en fait, l'extrême droite aujourd'hui, elle a imposé tous ses thèmes. C'est-à-dire que tous les débats en France politique se font sur des thèmes de l'extrême droite. Tout est fait par rapport à l'extrême droite. Par exemple, l'extrême droite, elle va parler de la question du grand remplacement. Le grand remplacement, théorie d'extrême droite. Et ben ça va être débattu pendant des heures et des heures et des heures. Oui, est-ce qu'il y a un grand remplacement, etc. Et après, il y a des terroristes d'extrême droite, comme ceux de Christchurch, comme il y a eu au Canada, comme il y a eu aux États-Unis, là. J'ai oublié la synagogue qui a été attaquée, etc. André Breivik en Norvège. Et en fait, c'est comment ça va influencer. La France, aujourd'hui, est devenue un terreau intellectuel d'extrême droite où des militants et des terroristes d'extrême droite, des suprémacistes blancs, vont puiser dans l'idéologie de ces théories pour passer à l'acte. Donc, par exemple, le grand remplacement, les blancs sont en train d'être remplacés. Il n'y aura plus de blancs. Bientôt, il n'y aura plus que des musulmans. Et donc, on va passer à l'acte, on va tuer des musulmans dans des mosquées, comme on l'a vu, dans des synagogues, parce que les juifs, c'est eux qui manipulent pour ramener des migrants massivement en Europe. Donc, on a des théories antisémites. Et donc, en fait, on a toutes ces choses-là qui sont débattues matin, midi et soir.
On va prendre une petite pause musicale en compagnie de Kate Kuna, qui vient tout juste de sortir Métastase, son 5e album solo. Et qui occupe la 24e position du palmarès franco de Choc. Et pour rester dans l'ambiance, eh bien, j'ai choisi de vous faire écouter la pièce Le Travail.
Tu te lèves le matin dans ta peau de chagrin. Il est tôt, tu te bats, tu te forces, tu y vas. Y a les cons de la radio qui sont lourds et qui râlent. Ou de la musique de merde dans les embouteillages. Le travail, le travail, le travail, le travail. Le travail, le travail, le travail. C'est tout le temps pareil, peu importe la journée, peu importe le mois, peu importe l'année. Y a toujours les collègues qui sont cons et qui râlent, les patrons, les problèmes et les embouteillages. Le travail, 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 le travail. La bière pour oublier tout ça, et puis la fin de semaine pour oublier plus bas. Y a les lendemains de veille, la vaisselle, le ménage et les courses pour la semaine, semaine dans les embouteilles. Le travail, 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 le travail. La piole, la bagnole et les dettes, les études des morveux, et puis pour la retraite, et bien sûr les vacances pour aller à la plage, avec tous les autres cons dans les embouteillages. Le travail, 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 le travail. Un matin dans ta peau de chagrin, il est tard, c'est fini, c'est la fin de ta vie. T'es un vieux con qui râle et qui gît dans sa merde, car même à l'hôpital, il y a des embouteillages. Le travail, le travail, le travail. travail, le travail, le travail.
Vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. Avant d'entendre la musette de Kate Kuna.
Oui, on était à Paris dans les années 50.
Youssef Brakni parlait, entre autres, du rôle de l'extrême droite dans le climat malsain qui règne en France. Mais la lutte antiraciste et antipolice du Comité Vérité et Justice pour Adama se heurte aussi à une certaine gauche parlementaire qui a historiquement été très peu été du côté des minorités. Une analyse qui s'applique d'ailleurs à la gauche de ce côté-ci de l'Atlantique.
Oui, bien sûr, mais parce qu'en réalité, la gauche, ce qu'on appelle la gauche parlementaire, la gauche qui se présente aux élections, qui veut le pouvoir, en réalité, elle n'est pas différente de la droite. En fait, ce n'est pas simplement un truc de la gauche a une mauvaise stratégie. C'est la gauche, elle est contre les minorités. C'est idéologique. C'est-à-dire que en France, si je prends l'histoire française, par exemple, la gauche a toujours été pour la colonisation. Toujours. Historiquement. Elle a toujours été pour la colonisation. Elle a toujours envoyé l'armée en Algérie. C'est la gauche qui a envoyé l'armée en Algérie, c'est pas De Gaulle. Hein. De Gaulle, c'est un homme de droite. Mais celui qui a envoyé l'armée, auparavant, c'était le Parti Socialiste. Parti Socialiste. Ils ont envoyé le contingent en Algérie, massacré massivement les indigènes, violé massivement, etc. Et ça, en fait, on ne peut pas le comprendre parce qu'on se dit, bah, c'est la gauche, elle va être du côté des opprimés. Non, elle peut avoir, pour de la communication, pour de la com, pour de la communication, elle va dire, pour du marketing, je suis de gauche, je suis pour le progrès et tout, mais dans la réalité, elle va combattre les mouvements qui sont pour le droit et la justice. Nous, je le vois, moi, le comité Adama, on doit aussi bien affronter des gens de gauche qui vont tout d'un coup dire oui, mais c'est compliqué, on peut pas vraiment être contre la police, on a besoin de la police c'est important, on peut pas regarder, il y a des gens, il y a de la violence, c'est quand il y a de la violence, il faut la police. Oui, on est obligé de se battre contre ça, mais pendant ce temps-là, il y a l'État qui attaque. Donc nous, on perd du temps avec eux, et nous, on est affaiblis pour pouvoir affronter l'État. Or, l'État, c'est lui qu'on veut combattre, parce que c'est l'État qui fait qu'il y a des morts dans les quartiers, c'est l'État qui envoie la police, etc. Du coup, on est entre deux fronts, et ça a toujours été comme ça. Quand tu connais l'histoire, quand tu étudies l'histoire, la lutte anticoloniale, en fait, les mouvements de libération ont toujours affronté les deux en même temps. Les faux amis progressistes, soi-disant, et l'État, le régime colonial. Si on prend le Parti communiste, le Parti communiste, on se dit, bah, c'est radical. Mais le Parti communiste, il n'était pas pour l'indépendance de l'Algérie. Il disait la paix en Algérie. Il disait « Peace for Algeria », c'était leur slogan. C'est ça. La paix en Algérie, mais la paix, c'est pas l'indépendance. La paix, c'est pas la libération. En Palestine, en Israël, il peut y avoir la paix. Demain, il peut y avoir la paix. Tant que les Palestiniens, ils veulent plus. Ils disent « Moi, je veux plus. C'est bon, je renonce à l'État. Ok, Israël, vous avez gagné. Bah, il y a la paix. Il n'y a plus de morts. Voilà, c'est bon. » Non, ce qu'on veut, c'est la justice, la dignité et la libération. Or là, le Parti communiste, par exemple, typiquement. En revanche, il y a des individus isolés du Parti communiste. C'est vrai, ils ont participé à la lutte. Mais c'est des individus isolés. Mais la ligne, le parti, la masse, ils étaient pour la colonisation, en fait. Et on le voit pour tous les trucs. On le voit avec les démocrates aux États-Unis. Une fois que Biden est au pouvoir, moi, je veux bien, OK, il fallait virer Trump. C'est normal, il fallait virer Trump. Mais aujourd'hui, on le voit bien. Quand on a les démocrates au pouvoir, tout d'un coup, les mouvements baissent dans la rue. C'est quand Trump, quand le plus grand mouvement de l'histoire, c'est quand Trump était au pouvoir. Parce que là, il n'y a pas l'anesthésie. Il n'y a pas le truc de « c'est bon, on s'occupe, pas besoin d'être dans la rue, on s'occupe ». Il y a AOC, il y a Ilhan Omar, il y a Cori Bush. C'est bien ce qu'elles font, hein. Mais le problème, c'est que ça ne va plus. Parce qu'en fait, du coup, on se dit « bon, bah, ok, on descend, on arrête et on machin ». Et quand on regarde Biden, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour la police? Il y a toujours des Afro-Américains qui meurent. On a toujours la même situation. On a toujours autant de personnes en prison. Là, il a annulé la dette étudiante. Mais ça, c'est parce qu'il y a les midterms qui arrivent. Il y a les élections qui arrivent là pour le Congrès. Mais sinon, fondamentalement, la structure, elle ne change pas. Et ça, c'est...
Dans le prochain segment, Youssef va revenir plus concrètement sur le travail du Comité Vérité et Justice pour Adama. et plus spécifiquement sur la façon dont le comité a réussi à s'organiser pour pallier au manque de ressources financières, entre autres, par exemple en sortant des réseaux militants habituels pour élargir la portée de leur lutte et mobiliser l'opinion publique.
Sans ressources, c'est quasiment impossible. Nous, pourquoi on a réussi à mobiliser? Parce qu'on a mis en place une stratégie pour contourner la censure médiatique, parce que les médias, ils censurent. Les médias, ils veulent pas en parler. On a utilisé les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook. On a tout mis, on a beaucoup misé sur ces réseaux sociaux-là. On a beaucoup joué, on a beaucoup joué sur le côté avec les rappeurs, avec des artistes. On a essayé de créer un truc un peu... On n'a pas fait un truc trop idéologique. Moi, on s'est réparti les tâches. Moi, je m'occupais de faire le côté très politique, idéologique, le système policier, la violence policière. Mais il y en a d'autres comme Assa, elle était avec des rappeurs, avec telle personne très connue en banlieue, tel footballeur. Des liens et tout. Du coup, là, on a popularisé, on a rendu populaire. C'est-à-dire que même si les journaux ne parlaient pas de nous, même si les médias ils ne parlaient pas de nous, en fait, on parlait de nous dans d'autres secteurs. Et des fois, donc, on faisait Assa, elle faisait des vidéos, Assa Traoré, ça faisait 1 million de vues. 1 million, toute seule. Parce qu'il y avait des stars, il y avait des pastilles bleues, tu avais des footballeurs noirs, des arabes, des rappeurs arabes, etc. Tac. Exactement. Et surtout, elle a cassé une pratique militante. Et en fait, il y avait une pratique très gauchiste, je fais un meeting dans la salle à Paris, la même salle, tu vois. Ensuite, j'y vais, place de la République, je fais la même manif, tac, c'est tout pareil. Là, nous, on a cassé. On a commencé à être sur le rap, on montait sur scène, le tri chante et on met le t-shirt Justice pour Adama, tu vois, petit à petit comme ça, etc. Et ben en fait, on a popularisé le combat et on l'a sorti de l'isolement en allant sur des terrains où on n'attendait pas ce combat-là. Et je pense que c'est pour ça que ça a bien marché. C'est pour ça qu'on a cassé tout ça. Et du coup, au niveau de l'argent, par exemple, on n'a pas d'argent, on n'a pas de financement, mais c'est des dons. C'est des gens, ils donnent. On vend des t-shirts. Un rappeur, il a porté le t-shirt, il a rendu célèbre. Du coup, on le vend le t-shirt 10 euros, hop, ça nous fait un petit financement. On fait des dons. Quand il y a la fête de l'humanité, du journal L'Humanité qui arrive là à Paris, là on va y aller, on va faire un stand, on va vendre des allocaux, des trucs comme ça, on va faire de l'argent. On a réussi à trouver plein de manières inventives.
En conclusion de l'entrevue, Youssef parle d'un élément crucial dans toute lutte qui souhaite s'inscrire dans la durée, le long et lent travail de mobilisation populaire, un travail difficile qui se fait dans l'ombre, loin des caméras, des médias. Gagner la confiance des personnes marginalisées demande la patience. Et c'est seulement avec cette confiance-là qu'on peut réussir à construire un mouvement de masse prêt à descendre dans la rue.
Nous, ce qu'on fait pour s'inscrire dans le long terme, c'est faire la tournée des quartiers populaires. Regarde, là, on a fait une tournée dans un quartier, tu vois. On s'assoit, on prend des... Et là, c'est quelqu'un, une artiste, on a pu une artiste qui a ramené des tableaux. Okay. On met des chaises. Tu vois, et on discute avec les jeunes dans le quartier. Et les seuls qui peuvent aller dans le quartier, il n'y a que nous. Tu vois, les jeunes là, comme ça, ils ne laissent pas entrer. Tu ne veux pas venir et tu commences à te poser comme ça sur des chaises, à commencer à parler. Regarde les gens, les habitants du quartier autour de Assa. Tu vois, regarde, ils sont contents de voir Assa. Ils disent oui, Assa, oui, viens et tout, etc. Parce qu'Assa, elle représente. Elle les représente. Elle parle pour eux. Ça, on va dans les quartiers directement et sans médias, sans journalistes, sans rien, on y va nous. Et on discute avec eux et on fait une tournée comme ça. Wow. Dans tous les quartiers. Difficile, hein, des quartiers, c'est pas tout le monde qui peut entrer. Hein. Mais on y va et on discute avec les habitants. On dit, voilà, c'est quoi? Comment vous vous organisez? Qu'est-ce que vous faites pour vous battre, pour améliorer votre quotidien? Le bâtiment qui est en ruine, il n'y a pas de chauffage, tu vois, c'est sale, etc. Les réalités de la vie quotidienne. Et nous, ce qu'on fait, c'est un réseau. Tu vois, un réseau d'entraide
dans les
quartiers populaires, dans les banlieues. Un réseau entre nous, connecté petit à petit. Là, on a commencé avec Pantin, là. Et on va faire ça tout le temps, jusqu'à la fin de l'année. Et après, on va tout connecter. Tu vois, un sorte de réseau entre nous. Quand quelqu'un il a un problème, là, il a un problème parce que la mairie, elle ne veut pas remplacer les ascenseurs. Il y a 18 étages. Il n'y a pas d'ascenseur. les mamans, elles peuvent pas descendre avec les courses ou avec les je sais pas quoi. C'est indigne du quotidien. Voilà, la vie concrète pour améliorer. C'est ça qui est important. C'est partir de ta vie, de ton voisin. Qu'est-ce qu'il a, ton voisin? Est-ce que ton voisin, il va bien? Est-ce qu'il a des problèmes? Voilà, on s'aide, on s'entraide, etc. Et nous, on donne de la force. Et petit à petit, tout ça, quand après, on appelle à une grosse manifestation à Paris, tout le réseau, il vient. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on est obligé de faire ça parce que la répression, elle est forte. Donc, du coup, on s'est dit, on va reculer. Ça, on fait plus de grandes marches. Ça, c'est trop fort, la répression, elle est trop forte. L'État français, ils sont devenus complètement dingues. Donc là, on a reculé. C'est-à-dire, on va travailler dans les quartiers. Petit à petit. Et un jour, dès qu'il faudra, quand il le faudra, on revient en force. Tu vois, on revient en force dans la rue, massivement. Ça sert à rien de faire des marches pour des marches. Si tu fais des manifs pour des manifs, tu vas mettre en danger les manifestants. Parce que quand nous, on avait fait les manifs en juin, là, 2020, mais ils tiraient au LBD, sur les yeux et tout. On s'est dit, c'est trop dangereux. Il y en a un, il a perdu son œil. Et puis surtout, l'extrême droite, elle rentrait dans le cortège. Ils laissaient l'extrême droite venir. Ils sont montés sur un toit, à la place de la République à Paris, et ils ont mis White Lives Matter. Une banderole comme ça, énorme.
Une banderole raciste.
Raciste. White Lives Matter, quoi. La vie des blancs compte. Et c'est 15 militants blancs d'extrême droite sur le toit d'un immeuble, tu vois, haussmannien. La police les a laissés. Nous, on était 100 000. 100 000 personnes en étaient sur la place de la République. Ils nous ont bloqués. Interdiction de bouger. Complètement fou. Complicité de la police. Ils ont laissé. Et là, quand on a vu ça, on a dit, ah ouais, la police, elle laisse faire ça, etc. Parce que la police, elle est infiltrée par l'extrême droite. La police, elle est infectée. C'est fini, la police. Demain, il y a une guerre civile, on est foutu. La police, l'armée, c'est l'extrême droite. Donc, ils les ont laissé monter. Après, ils les ont accompagnés. Et les gars, ils prenaient des selfies dans le camion de police. Ils faisaient ça. Et ils sont partis manger des pizzas après dans le quartier latin. Sans poursuite, ils vont pas en prison. C'est bon. Et ça, nous, on s'est dit, c'est dangereux. Là, il y a un problème. Ça sert à rien de forcer. Vaut mieux travailler tranquille et on revient plus fort. Tu vois? Parce qu'en fait, faut pas se sacrifier. C'est ça qui est important. C'est qu'en fait, se battre pour la justice, c'est pas se sacrifier pour se sacrifier. Ça peut être utile de se sacrifier. On peut se sacrifier dans des situations extrêmes, etc. Mais quand ça vaut le coup, quand tu as un objectif. Mais si tu veux te sacrifier parce que c'est beau, parce que c'est pour faire des photos, c'est pour les romans, etc., ça sert à rien, ça. Tu n'aides pas la cause. Ce qui compte, c'est aider la cause. Qu'est-ce qui sert la cause? Si tu veux faire une manifestation où tout le monde perd ses yeux, tout le monde va en prison et tu es détruit, ça sert à rien. Ça fera une belle histoire, mais ça fera rien. Là, il faut reculer, c'est pas grave. De temps en temps, il faut se dire stop. On recule, on retravaille autrement, tu vois. Et après, on revient. Mais il faut avoir de la stratégie. C'est ça qui manque. Parce que l'État, il est très dur. Donc, il faut savoir mener des stratégies. Et ça, c'est le premier point, les quartiers. Le deuxième point, c'est que nous, on veut développer, sortir de l'isolement français pour l'international. Et quand Assa Traoré, elle a fait Time Magazine, quand Time Magazine a dit que c'était Guardian of the Year, ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble. Tous les ministres, etc. Ils ont dit c'est inacceptable, pourquoi c'est elle, etc. Parce qu'ils ne supportent pas ça. Et c'est ça, on s'est dit, ah ça fait mal. Quand tu dis dans le monde entier que la France, elle ne respecte pas les droits de l'homme, que la France, elle réprime les Noirs, les personnes noires, les personnes arabes, musulmanes, que la France, elle fait des chasses à l'homme, etc. Elle protège la police quand ils tuent, quand ils torturent. Et ben ça fait mal. Et exactement comme pendant la guerre d'Algérie, quand ils ont fait la tournée internationale, et ben nous, c'est ce qu'on va faire aussi. Tu vois, on va partout. Là, Assa était à New York, dans les facs, dans les universités. On dit, voilà ce qui se passe en France, avec des faits. Voilà c'est quoi la réalité. Quand tu te bats pour Adama, t'as 6 ans, il n'y a rien. Les 4 frères d'Adama, tous en prison. Tous en prison. 4 frères. 4 en prison. C'est ça qui se passe en France. Quand tu parles, quand tu oses être debout, on te casse et on te détruit. Et c'est notre seule voie.
Alors, c'est ce qui conclut cette conclusion, cette entrevue avec Youssef Brakni, qui, je le rappelle, avait été enregistrée à l'automne 2022 à Paris. Pour en savoir plus sur le Comité Vérité et Justice pour Adama, vous pouvez suivre leur page
F B.
On tient aussi à dire un gros merci à Stéphane Christophe de nous avoir permis de diffuser l'entrevue. Son émission Free City Radio, qui est en anglais, est diffusée sur les ondes de 5 radios communautaires à travers le Canada. À Montréal, vous pouvez l'écouter en direct sur CKUT 90,3 FM les mercredis à 11h et sur CJLO 1690 AM les jeudis à 13h. Puis toutes les éditions passées là, de son émission sont disponibles sur SoundCloud. Vous avez juste à taper Free City Radio. J'en profite pour vous parler brièvement d'un combat semblable à celui de la famille Traoré. Celle de la famille d'Alassane Sangar, ce père de 3 enfants décédé dans des circonstances obscures en novembre dernier à l'âge de 36 ans. Alassane Sangar avait été placé en détention provisoire à la suite d'un conflit de voisinage à Fleury-Mérogis, une toute petite communauté située à un peu moins de 30 km au sud de Paris. 6 jours et demi plus tard, eh bien, la famille apprenait son décès. L'administration pénitentiaire, elle, avance la thèse d'un suicide, thèse rejetée par la famille. Selon elle, Alassane n'avait aucune tendance suicidaire. Et en plus, si son corps ne portait aucune trace liée à une strangulation, la famille affirme qu'il portait des marques de coups suspectes. Alors depuis, la famille réclame sans succès jusqu'à maintenant le rapport d'autopsie qui permettrait d'élucider les causes du décès de Alassane. La famille a porté plainte contre X, on ne sait pas qui, là, les noms ne sont pas publics.
Les matons.
J'imagine, ouais, pour ça. Violence volontaire aggravée ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle a aussi lancé une pétition pour demander l'ouverture d'une instruction, donc d'une enquête officielle, ce qui pourrait finalement donner accès au rapport d'autopsie à la famille. Vous pouvez signer la pétition en vous rendant là, sur le site de www.change.org ou change.org /p.vérité-pour-Alassane avec deux S. Alors, on va aller retourner en musique avec la chanteuse, guitariste et compositrice Sonny Warr, qui est originaire de Nashville aux États-Unis, mais qui est maintenant établie en Californie, à Los Angeles. On peut, pourrait définir son style musical. En tout cas, c'est comme ça que le magazine Rolling Stone le définit comme un mélange de folk, de street punk et de blues. La pièce qu'on va entendre est tirée d'Anarchist Gospel, qui est son 6e LP, qui est sorti en février et qui figure à la 4e position du palmarès anglo de Choc. Alors, on écoute Sonny Warr et sa pièce « Shelter and Storm ». Alors, c'était Sonny War et la pièce Shelter and Storm. Je dirais qu'avec le verglas d'hier.
Oui, Sonny War aussi, c'est quand même un beau nom. Oui. Sûrement pas son vrai nom, mais c'est un beau nom.
Avant de céder, enfin, Mathieu, là, le micro.
Oui, oui, c'est ça. Je suis un peu dans mon coin. Oui,
oui, ouais, non, non, ça s'en vient.
Oui,
mais
Marie-Ève,
je vais
oui.
D'abord, parce que toi, tu vas nous parler, c'est ça, du Madagascar. Moi, je vous amène en pays nordique, d'abord, pour plus précisément en Islande, où des voix s'élèvent contre la nouvelle loi sur l'immigration adoptée à la mi-mars, qui met entre autres fin aux garanties d'accès au logement et au système de santé pour les personnes dont la demande d'asile a été refusée. Faut savoir que ça fait plusieurs années que le gouvernement islandais cherchait à faire passer ce texte de loi-là. Il s'agit d'ailleurs de la quatrième version du projet de loi. Tous les amendements de l'opposition ont été rejetés, sauf un qui concerne les mineurs non accompagnés et qui vise à renforcer leur protection. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que 30 jours après le refus de leur demande d'asile, les personnes visées vont perdre l'accès aux prestations de santé et à la couverture par la sécurité sociale qui leur était accordée jusqu'ici. Leur accès au logement ne sera non plus va cesser d'être garanti aussi. Et cette perte de droit-là, par exemple, ne concerne pas les enfants et leurs parents, les femmes enceintes ou encore les personnes gravement malades ou en situation de handicap nécessitant des soins sur le long terme. Parmi les autres mesures qui font le plus réagir, la police va désormais avoir le pouvoir d'imposer des examens physiques et de santé mentale aux personnes en procédure d'expulsion, examens qui vont être menés par des autorités sanitaires. Comme dans les autres pays qui ont durci leur législation sur l'immigration récemment, ben le gouvernement islandais justifie ces nouvelles mesures-là en raison des soi-disant abus et en évoquant, évidemment, la saturation des structures d'accueil. Sauf que, selon le site spécialisé Schengen Visa Info, il y a seulement 2500 nouveaux dossiers qui ont été reçus par le service de l'asile islandais
notre
en 2022.
Notre capacité d'accueil.
Ben oui, c'est ça. Pour une donc 2500 nouveaux dossiers pour une population totale de 370 000 personnes environ. Et d'après les données de Eurostat, il y a près de 4000 demandeurs d'asile qui étaient en attente de réponse au cours de l'année 2022 dans le pays. À titre de comparaison, en 2021, les demandeurs d'asile en attente étaient seulement 870, soit 4 fois moins. Et puis, on a observé un pic à 680 dossiers en mars 2022, qui coïncidait avec quoi? Un mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, sur ces 680 dossiers-là, il y en a 535 qui provenaient de ressortissants ukrainiens.
Okay.
C'est donc avant tout la crise ukrainienne qui explique cette forte hausse des arrivées. Les Ukrainiens d'abord, ukrainiennes représentent en effet plus de 50% des demandes d'asile déposées dans l'année. Donc ça veut pas dire que c'est un truc qui est en train de s'installer, que c'est une tendance qui s'installe. C'était un peu temporaire.
Mais on fait des nouvelles lois pareilles, plus répressives. Puis en plus, on fait pas de programme spécial pour les Ukrainiens comme la plupart des pays, surtout en Europe, en fait. C'est drôle.
Ben, supposément, c'est ça. Fait qu'en tout cas.
Ouais, c'est bizarre parce qu'ils ont eu un traitement un peu à part, les Ukrainiens, en général.
Normalement, mais je pense qu'ils servent de ça. Tu sais, on voit un peu que c'est un argument fallacieux, là, pour faire passer cette. Je pense que ça tombait juste bien pour le gouvernement islandais, tu sais. Quand ça fait 4 fois que tu essayes de faire passer
une
loi.
Oui, puis... j'ai compris le processus. Je pensais que c'était le paradis sur Terre, l'Islande, hein? C'est pas vrai. Hein? Non, c'est ça.
Je vais finir, je veux juste conclure avec les mots de Sema Erla Serdar, qui est fondatrice de l'ONG islandaise Solaris.
Oui.
J'ouvre les guillemets. Aujourd'hui, les violations des droits de l'homme contre les personnes déplacées ont été promulguées sous forme de loi. Aujourd'hui, le racisme systémique est devenu une loi.
Ça ressemble à ailleurs, hein? Oui, tout à fait. Hein?
Oui, sauf que là, il y en a qui le disent.
Marie-Ève?
Ben oui.
Je vais passer à Madagascar.
Madagascar, oui, on va aller.
On change de quoi? On reste dans une grande île. C'est encore plus grand que l'Islande.
Oui, mais pas sur le
Mais dans l'océan Indien, oui, c'est ça, près de l'Afrique. Et... Donc, on n'en parle jamais de Madagascar, mais il se passe des choses, vous allez voir. Alors qu'un premier bilan faisait état d'une vingtaine de morts, les autorités malgaches ont annoncé que 34 migrants avaient péri dans le naufrage de leur embarcation partie de Madagascar pour aller à l'île française de Mayotte, qui est à peu près à 200 kilomètres. Donc, ça s'est passé à la mi-mars et 24 personnes ont été secourues. L'embarcation a sombré au large du district d'Ambanja, à la pointe nord de Madagascar. Parmi les survivants, une jeune femme enceinte a été auditionnée par les gendarmes enquêteurs au sortir de son hospitalisation. L'embarcation a chaviré car elle était trop chargée. Des avis de recherche ont été lancés contre deux malgaches accusés d'être des passeurs. Ils sont recherchés pour embarquement illicite et transport clandestin, homicide involontaire des passagers vers Mayotte. Mmh. C'est une ancienne colonie française, ça paraît hein, dans les termes, dans les ouais. accusations. Les Kwasa Kwasa, frêle bateau de pêche à moteur utilisé pour relier Madagascar ou les Comores à l'île française de Mayotte, chavait régulièrement lors des travestis.
C'est vraiment un joli mot en passant.
Kwasa Kwasa.
Ouais.
De nombreux migrants africains et comoriens tentent pourtant chaque année cette dangereuse traversée vers l'archipel dont la moitié de la population est étrangère. Je parle de l'île de Mayotte.
Ouais.
On voit notamment de plus en plus de Burundais et de Rwandais
ah ouais.
qui se rendent à Mayotte. C'est une situation que l'on ne connaissait pas il y a encore 10 ans et qui prend aujourd'hui des proportions considérables, a dit quelqu'un à Mayotte. Depuis 2019, l'État français a augmenté ses moyens de lutte contre cette immigration avec notamment la présence continue en mer de bateaux intercepteurs et une surveillance aérienne. Au cours de l'année 2022, 571 embarcations transportant 8000 migrants ont été interceptées en mer par les forces françaises, parce que Mayotte, c'est un dom-tom.
Ouais.
En visite en décembre à Mayotte, le ministre de l'Intérieur français, Gérald...
Darmanin
démission, a exprimé sa volonté de renforcer encore ses moyens. En parallèle, les procès de passeurs se multiplient. Le même mois, au mois de décembre, 3 passeurs étaient jugés en comparution immédiate et condamnés à des peines de prison ferme sur l'île de Mayotte pour avoir fait passer supposément plus de 35 000 personnes depuis les Comores, qui n'est pas très loin. Selon un rapport d'information du Sénat français publié au début des années 2000, environ 1 000 000 de personnes y perdent la vie chaque année. Entre Comores, Madagascar et Mayotte.
Est-ce qu'on connaît les distances entre chacune de ces
Madagascar, Mayotte, c'est à peu près 200 quelques kilomètres. Puis entre Comores et Mayotte, c'est genre 75.
Ah ouais.
C'est un ancien archipel commun à l'époque de la colonie française, mais les Comores sont maintenant indépendants, ce qui n'est pas le cas de Mayotte, c'est un tom-tom.
Ouais.
Dans le cadre du Port Security Program, ça c'est quoi, Marie-Ève? Un programme financé par l'Union européenne sur 4 ans, dont Madagascar bénéficie avec 8 autres pays de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Donc, juste pour Madagascar, 150 gendarmes, douaniers et agents de police malgaches auront reçu d'ici un an une formation dispensée par Interpol sur le renseignement terrestre et la maîtrise des échanges d'informations dans la lutte contre les migrants en bateau.
Mmh.
Selon l'OIM, cet énième naufrage met au grand jour la crise migratoire que Madagascar traverse actuellement. L'OIM tente d'élaborer un programme dédié à ces personnes prêtes à prendre tous les risques pour fuir leur île. Le but du projet, c'est de proposer des activités génératrices de revenus aux potentiels migrants afin de les stabiliser dans les communautés d'origine, parce qu'on le sait pour la plupart que les gens quittent pour des raisons économiques.
Ben oui.
Évidemment. Et je vais terminer avec une petite nouvelle sur Madagascar. Ah ouais? Écoute, à 7 mois de la présidentielle, le gouvernement restreint le droit de manifester, parce qu'on vient à la politique, hein, à Madagascar. Déjà qu'il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes politiques, il y a un président élu, mais assez louche. À la télévision nationale malgache, le 31 mars dernier, le ministre de l'Intérieur a annoncé que toutes les manifestations à caractère politique dans un lieu public sont désormais interdites et devront se tenir uniquement dans un endroit fermé et clos afin de préserver l'ordre public.
Ben oui, afin de bien les gazer à l'intérieur.
C'est ça. Cette mesure s'applique à tous les partis politiques, à tous les parlementaires et à tous les organismes de la société civile, sauf aux membres de l'exécutif qui ont le devoir de rencontrer et d'écouter la population.
Ben voyons donc.
Pas pire, hein? Certains ont embarqué un poisson d'avril, c'était le 31 mars, avant de comprendre que l'annonce du ministre était sérieuse. Écoute, le président s'appelle Andy Rajoelina et ça a l'air d'un méchant moineau. Peut-être finir en disant que la pauvreté a atteint un niveau record avec plus de 80% de la population vivant sous le seuil de 2,15 $ par jour. L'inflation provoquée par la guerre en Ukraine et les difficultés d'acheminement des denrées à travers le pays en raison de la dégradation des routes font flamber les prix des produits de première nécessité comme le riz. Et ils exportent beaucoup la vanille. Madagascar, il y a des gros problèmes au niveau du marché international. Donc, on en parlera de Madagascar. C'était
toutes les îles dans ce coin-là aussi.
Oui, c'est ça, les différents archipels. Ouais. Il se passe des choses, tu sais. 1000 morts par année juste entre deux, trois îles. On n'entend pas parler jamais, là. C'est plus que dans le Saint-Laurent.
Effectivement.
Oui.
Alors, petit coup de casserole, Mathieu, tant qu'à avoir des manifs interdites.
À Madagascar? plusieurs choses à l'agenda, si ça vous intéresse, ou c'est une suggestion de livre à la fin. 15 avril, donc dans à peu près une dizaine de jours, programme double à La Shop, qui est un centre social autogéré sur la rue Letourneux à Montréal. Deux événements, donc programme double, je l'ai dit. Atelier sur le capitalisme de surveillance et la quatrième révolution industrielle, donné par des membres du projet Accompagnement Solidarité Colombie, en après-midi. Et en soirée, ben bénéfice pour qui s'appelle Solidarité avec les camarades arrêtés à la forêt d'Atlanta, en lien avec le projet Cop City. C'est en soirée, toujours à La Shop. Discussion, témoignage, show, DJ set.
Peux-tu expliquer un peu, c'est
oui,
quoi?
Oui, hein? J'y arrive. J'avais un petit paragraphe de près, Marie-Ève.
OK, super, merci.
Cela fait plus de 2 ans que plusieurs groupes s'organisent pour défendre une forêt au sud de la ville d'Atlanta, menacée d'être détruite par la construction du plus gros centre tactique d'entraînement policier du pays et d'un immense complexe de plateaux de tournage. Mm. Depuis décembre dernier, la répression du mouvement s'est accentuée alors que la police de l'État de Géorgie a abattu un manifestant lors d'un raid dans la forêt en janvier. Au début mars, 23 personnes ont été arrêtées lors d'un festival de musique et sont présentement accusées de terrorisme intérieur.
Rien de moins.
Domestic terrorism. C'est du gros, fait que la répression est forte. Sinon, le 22 avril à 16h, à la salle de diffusion de Parc Extension, qui est la maison de la culture, Haïti Chérie, soirée de court-métrage sur Haïti. Le festival Filministe propose d'aller à la rencontre des citoyens et citoyennes par le biais du cinéma, avec une programmation qui célèbre la culture et les réalités de la communauté haïtienne à Montréal et en Amérique, dans les Amériques. Le festival souhaite créer un espace de rencontre montrant la richesse et la complexité du patrimoine haïtien par l'entremise de 5 courts-métrages abordant les relations familiales, le racisme, la nostalgie et l'immigration de première et deuxième génération. Cet événement présentera le regard cinématographique et artistique de réalisatrices de talent qui sont Myriam Charles, Carminé Pierre Dufour, Nitsé Matelier, Rachel Salnave et Marie-Claude Fournier. Donc, c'est le 22 avril à 16h dans Parc Extension. Lancement du livre We Go Where They Go, The Anti-Racist Action Story. Livre écrit par Shannon Clay, Lady, Kristen Schwartz et Michael Studenmayer. Une publication de PM Press, Working Class History et University of Regina Press. C'est le 22 avril à 19h au Comité social Centre-Sud, toujours à Montréal. Il y aura discussion. Il y aura aussi bière en fût. Il y aura aussi souper, vente de livres de fanzines. C'est présenté par Montréal Antifasciste. Sinon, ben le 24 avril prochain marquera le triste 10e anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Donc, un rassemblement national à Montréal qui s'appelle 10 ans plus tard, les dessous du textile et de la fast fashion. Je lis un petit extrait de leur communiqué. Nous demandons à toutes les compagnies canadiennes de respecter et de promouvoir les droits des travailleurs et travailleuses du textile, dont le droit d'association à la santé et sécurité au travail, à des conditions de travail justes et équitables et à un salaire décent. Demandant que le Canada adopte une loi pour prévenir et agir contre les abus de droits humains, dont les droits du travail et les destructions environnementales dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement des compagnies canadiennes qui importent des marchandises. Donc, il y a une pétition pour appuyer la demande du Canada de faire une loi pour prévenir les droits humains, l'abus de droits humains à l'étranger. Mm-hmm. Et l'événement, c'est le 24 avril de midi à 13h au Square Philippe, toujours à Montréal, organisé par des groupes féministes, évidemment. Sinon, ben 500 ans de résistance autochtone en bande dessinée, Marie-Ève, ça te dit quelque chose?
Hein? Oui, je pense que c'est la bande dessinée de Gord Hill,
exactement.
N'est-ce pas?
Après avoir vendu plus de 10 000 exemplaires dans sa version anglaise originale, l'œuvre de Gord Hill, membre de la nation Kwakwaka'wakw du nord de l'île de Vancouver, c'est maintenant offert en français. De l'invasion des Caraïbes par Christophe Colomb aux résistances des Wet'suwet'en, la bande dessinée, la bande dessinée 500 ans de résistance autochtone se présente comme un antidote nécessaire à l'histoire officielle des Amériques. Gord Hill est passionné d'histoire et animé d'une volonté de rétablir les faits face à la version coloniale de l'histoire qui est enseignée en Amérique par rapport aux Autochtones, Marie-Ève. Gord Hill souhaite que cette traduction ne soit qu'une première étape, selon lui. Une traduction en espagnol serait particulièrement souhaitable puisque les descendants de plusieurs nations autochtones dont il est question dans la bande dessinée parlent cette langue, dans la plupart des Amériques,
ben oui,
évidemment. Il travaille actuellement à un autre projet de bande dessinée qui relatera cette fois-ci l'histoire de l'expulsion de différentes nations autochtones de leur territoire lors de la création de parcs nationaux aux États-Unis et au Canada.
OK, intéressant.
Donc, 500 ans de résistance autochtone est publié par les éditions Prise de parole depuis quelques semaines. Et ça fait suite à un livre au début, ensuite une bande dessinée en anglais, là, c'est en français. Ouais. Puis moi, je l'ai déjà, j'ai pu déjà voir des choses en ligne, entre autres, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que j'ai le temps, Marie-Ève, pour un dernier...
Oui.
Oui?
La Richeuse dit oui.
La Richeuse dit oui. Écoute, on a reçu des suggestions de livres de quelqu'un qui nous écoute en France, qui s'appelle Bernard Bretonnière de Nantes, qui nous écoute ou nous suit sur Facebook, je suis pas sûr. Il a publié plusieurs livres sous le chapeau de flux migratoires contemporains. Je lis sa petite introduction. Pour nombre d'observateurs, notamment historiens et anthropologues, le phénomène des migrations actuelles constitue le bouleversement mondial le plus important et le plus préoccupant d'un point de vue humain et humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a un premier livre qui vient de paraître. Les deux autres ont paru en 2021. Celui qui vient de paraître, c'est « Lettre ouverte aux 11 millions de lits français qui dorment sans personne dedans » aux éditions Réalgar. En prenant les chiffres les plus hauts quant à l'évaluation des personnes vivant dehors, on comprend qu'il suffirait qu'un lit vacant sur 36 soulève ses draps pour que plus personne en France, natif ou étranger, ne passe ses nuits et ses jours dans la rue. Donc, c'est un calcul assez particulier, mais c'est intéressant quand même. Comme, puis les deux autres livres qu'il a publiés en 2021.
Oui.
Oui?
Oui, en 2021.
Oui. Amou Soneya ou Parole de demandeur d'asile subsaharien aux éditions du Centre de création pour l'enfance. C'est un livre qui peut être pour les enfants. Résultat de l'accueil et de la fréquentation quotidienne par l'auteur pendant plus de 4 années de jeunes demandeurs d'asile subsahariens. Ça rapporte en 23 brèves séquences reconstruites et synthétisées sans commentaire les propos de ces migrants. Chaque monologue se termine par un leitmotiv qui est « c'est pas facile », qui se dit « Amou Soneya » en sousou, langue principalement parlée en Guinée. Un euphémisme qui, par délicatesse, politesse et respect de l'interlocuteur, ne veut pas l'éprouver, mais signifie pourtant que c'est pas facile, que ça va pas très bien.
Ouais.
Donc, c'est pas facile, que c'est difficile, voire très difficile. Et le dernier, Marie-Ève,
oui?
Que « Quand ça va bien un peu », parole de demandeur d'asile au temps du corona, donc sorti en 2021, un impromptu théâtral recueilli dans un livre numérique collectif avec d'autres parutions aux éditions compagnie Poc la Lune. PAK La Lune. Résultat d'une enquête auprès de migrants, cette pièce composée de répliques de près de 60 personnes rapporte leurs propos sur différents enjeux de migrants pendant la pandémie et après. Donc, je répète en terminant, Marie-Ève, Bernard Bretonnière, qui a publié plusieurs livres, basé à Nantes, qui nous a écrit et dont on parle de ses productions sur les enjeux de migration en France et ailleurs.
Ben, merci, Mathieu.
Fait plaisir, Marie-Ève.
On se dirige vers la fin de l'émission, mais avant, je reprends l'initiative de Simon à la dernière émission avec la remise de prix Citron et Orange.
Oui!
Alors, mon prix Citron va aux autorités judiciaires grecques qui ont condamné au début du mois de mars un pêcheur égyptien de 45 ans à 280 années de prison pour trafic d'êtres humains. Retour en arrière, en novembre 2022, M. Elfala prenait place avec son fils de 15 ans à bord d'un bateau chargé de près de 500 migrants avec l'espoir de rejoindre l'Europe depuis l'Égypte. Le père souhaitait atteindre la Grèce et puis ensuite le Royaume-Uni où un autre de ses fils avait déjà demandé l'asile. Ayant pas les moyens de payer le voyage, M. Elfala a accepté l'offre des trafiquants de conduire le bateau contre la gratuité de sa place. Alors, le jour de la traversée, alors que là, les conditions météorologiques se dégradaient et que le bateau délabré dérivait dans la mer agitée, les migrants sont secourus par un patrouilleur des gardes-côtes grecs. Ils sont remorqués jusqu'à un port en Crète et parmi eux, 7 passagers accusés d'avoir fait passer 476 migrants sont arrêtés, dont M. Elfala. Mm. C'est qu'en vertu d'une loi grecque aussi, faut savoir qu'en vertu d'une loi grecque de 2014, le pêcheur risquait 4760 années de prison, soit 10 ans par passager présent sur le navire.
Quelle logique.
Le tribunal a pris en compte les raisons pour lesquelles il avait accepté de conduire le bateau et lui a infligé une peine moindre
de
de 280 ans de prison.
Mon Dieu, au lieu de 1000 kecs.
Voilà, oh. Alors, prix citron pour cette criminalisation scandaleuse de personnes migrantes en déplacement et en grande précarité.
Mais en Grèce, ça fait quelques cas dont on parle de migrants qui attrapent des super... ou des gens qui les appuient. Là.
Exact.
La répression est très, très forte.
Oui. Ouais. Mon prix orange, lui, va à Emilia Camvisi, qui s'est malheureusement éteinte à l'âge vénérable de 93 ans sur l'île de Lesbos le 12 mars. Cette grand-mère grecque était devenue le symbole de la solidarité envers les migrants, migrantes arrivés en Grèce au plus fort de la crise migratoire en 2015. Il y a une photo qui avait alors fait le tour du monde. On y voyait trois vieilles dames assises sur un banc. Une d'elles, Emilia Camvisi, donnait le biberon à un bébé syrien dont les parents venaient d'arriver sur l'île grecque de Lesbos après une périlleuse traversée de la mer Égée. Donc, ces trois femmes-là ont passé des mois à se rendre presque quotidiennement sur la plage pour y accueillir les exilés épuisés par leur voyage, pour leur apporter du réconfort, mais aussi des vêtements secs et de la nourriture. Leur dévouement leur avait même valu d'être nominées pour le prix Nobel de la paix en 2016.
Ah oui.
Mais les trois femmes, elles, ont toujours martelé qu'elles n'avaient rien accompli de spécial. Et donc, on va clore cette émission sur les mots de Emilia Camvisi, ce qu'elle avait dit à l'époque. « Nous n'avons pas fait grand-chose. On n'a fait que se comporter en être humain. Nous avons juste offert de l'amour car c'était la seule chose que nous avions à donner. »
C'est très beau et c'est une autre réponse que le gouvernement grec actuel. Hein?
Exactement. Je trouvais que ça faisait un beau, en tout cas, un beau pied de nez, finalement, et à l'État grec.
Ces trois femmes-là sont décédées, d'ailleurs.
Oui, trois femmes. C'était la dernière, Emilia Camvisi, c'était la dernière à être en vie. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci, Mathieu, pour la richesse de ton contenu et pour ton maniement maîtrisé de la console.
Oui, et des dates d'agenda, évidemment.
Oui.
Marie, félicitations pour ton travail de montage et de présentation de l'entrevue avec Youssef du collectif.
Ben merci. J'aurais eu plein d'autres questions, moi, à lui poser. Peut-être qu'on le rencontrera un jour.
Ben oui, ici ou en France, on ne sait pas.
Ben oui, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria à Vancouver. Pas à Vancouver, à Victoria... sur l'île de Vancouver, le dimanche à 14h et le mercredi à 13h30. Vous pouvez aussi nous écouter en balado en vous rendant sur notre page, sur le site, le chic site de choc.ca ou encore sur notre propre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez nous écrire un courriel aussi, ça existe encore, apatridesanonymes@commercialresiste.ca et suivre notre page...
Notre page médias sociaux FB.
Peut-être qu'on va faire relâche dans deux semaines, c'est pas sûr.
Le 20 avril, là?
Ouais, peut-être. Histoire de suivre Simon dans son congé d'émission, lui qui est dans des contrées lointaines. On le rejoindra pas, mais bon.
Non.
En tout cas, on va vous tenir au courant par notre page.
Oui, et sur le site de Choc aussi. Donc,
aussi.
Peut-être le 20 avril, on sera avec vous. Sinon, ça sera au début mai.
On verra. Et si on est là, ce sera peut-être avec une autre entrevue aussi.
Peut-être.
Écoute, ça en fait des ici. Hein?
Des peut-être et des ici, oui.
On va se laisser en musique comme le veut la tradition. Et je te laisse, Mathieu, le plaisir de présenter ce choix musical qui est le tien.
Ben oui, du jazz contemporain, Marie-Ève. Alex Fournier, qui est un contrebassiste, compositeur prolifique de Toronto. Cette fois-ci, c'est en sextet. Donc, un album sorti en septembre dernier qui s'appelle Six-ish Plateus. Elastic Recording, ça va être la pièce Six East Plateus qu'on va entendre. J'ai essayé de voir s'il est en concert dans la région de Montréal. Ben non, il est à Toronto tout le mois d'avril, ça vous tente. Il fait plein de shows en quartet, trio. Ça a l'air la pièce qu'on va entendre est très bonne, mais ça a l'air qu'il est très intéressant en show. Donc je répète son nom, Alex Fournier, son quatrième album. On va finir l'émission avec ça, Marie-Ève, et
on va souhaiter une bonne soirée
à tout le monde. Hein?
Et oui,
au plaisir.
Au plaisir.